With TV, you can't even think of something different. With movie, you can.
Sento dentro di me una strana agitazione.
Scegli prima che chiedi. Chiedi?
La révolution n'est qu'un début, continuons. C'est le titre d'un film de Pierre Clémenti, daté de 1968. Un film présenté au FID dans le cadre de l'écran parallèle Zanzibar, dont nous allons parler tout à l'heure dans cet avant-dernier magazine du FID, en direct et en public depuis le Théâtre de la Criée, théâtre des opérations de ce festival du documentaire en rupture assumée avec cette conception didactique et consensuelle du docu-cucu qui prévaut à la télé dans ces chaînes qui n'ont jamais si bien porté leur nom. Continuons ici à rendre compte du cinéma, du documentaire et de la création. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Michaël Dacheux, réalisateur de Commune Présence, un film réalisé en 2007, présenté en première mondiale et inscrit en compétition française. Et puis j'évoquais l'écran parallèle Zanzibar, du nom d'un groupe de cinéastes fondé en 68 et actif jusqu'au milieu des années 70. Un écran parallèle dont la programmation a été confiée à Sally Chafteau, historienne du cinéma, qui est avec nous sur ce plateau, accompagnée du réalisateur Patrick Deval et de la comédienne Zouzou. Bonjour à tous.
Bonjour.
Enfin, dans ce magazine, on écoutera aussi des chroniques apportées par Anouk Bâtard, Juliette Guérin et Marc Voiry. D'ailleurs, on va commencer par une chronique. Marc Voiry a rencontré Caroline Delaporte, réalisatrice de Pologne. C'est son quatrième film, produit par Film Flamme, Le Polygone étoilé, qui présentait aussi cette année Lettre à la prison de Marc Scialom, dont je vous ai parlé précédemment. On écoute Caroline Delaporte.
Toujours autour de la musique et du spectacle vivant, c'est-à-dire que moi je viens du spectacle et de la performance, du cirque, de la danse. Et dans le cinéma, j'essaie toujours de retrouver un côté improvisation, un côté libre, dans le sens où on ne s'attend pas forcément à ce qui va se passer, qu'on ne sache pas où est-ce que ça va. Et donc, j'ai travaillé ça dans Pologne avec une violoniste classique, et donc très la musique classique polonaise, enfin, traditionnelle, populaire, elle est très, 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 très marquée, très écrite. Et donc, c'était de trouver le rapport entre cette musique qu'elle interprète dans le film et qu'elle joue, et on la voit jouer à la fin, et le rapport libre que je cherche avec les sons, avec les situations, avec l'improvisation. Parce qu'elle ne vient pas de la musique du tout improvisée, elle. Par contre, elle avait envie aussi d'improviser dans le jeu. Et ça s'est fait, et ça donne au film une liberté. En fait, elle est déplacée de son métier premier, qui est la musique, elle est déplacée vers le cinéma, vers la comédie. Et dans ce déplacement, moi, j'ai trouvé beaucoup de bonheur, parce qu'il y avait plein d'occasions de faire des choses drôles, quoi.
Pourquoi la Pologne ?
Mais j'avais envie de connaître le pays de l'Est, parce que j'y suis jamais allée. Et aussi, il y avait un rapport un peu plus intime du fait que, en fait, le père de ma fille est d'origine d'Ukraine. Le peintre qui vit à Marseille, Carlos Kouchner, il est né en Argentine, mais il est d'origine d'Ukraine. Donc ma fille a les yeux bleus, les cheveux noirs, et j'avais envie de connaître un petit peu son pays d'origine. J'ai pas pu aller en Ukraine parce que j'avais aucun contact là-bas, et c'était important pour moi d'avoir un contact humain, et d'être un peu introduite, parce que c'est un voyage quand même où je voulais filmer, où je voulais être avec les gens, et du coup j'ai rencontré Agnieszka, et elle était polonaise, et ça s'est fait comme ça.
Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ton personnage dans le film ?
Dans le film, c'est pas vraiment un personnage, c'est moi. Je me suis fait une petite robe cousue main. Il y a un petit côté ridicule qui vient de cette robe, parce que j'ai rajouté une broderie, mais qui est très mal placée, enfin qui fait un zigzag sur le côté. Mais j'ai pas cherché vraiment le personnage. Je me suis dit qu'il fallait chercher une situation décalée par rapport aux autres situations du film. Donc la narration de la musicienne qui quitte sa famille, qui se retrouve un petit peu perdue, qui vagabonde un peu dans la ville, qui veut faire de la musique mais qui n'en fait pas encore, et après petit à petit ça se met en place. Et puis mon personnage, il est complètement ailleurs, il tranche en fait, c'est un collage.
Il est dans un cimetière d'ailleurs souvent.
Ouais, il est dans un cimetière et dans un bus.
Pourquoi ?
Ben, c'est simplement le... Bon, c'est vrai que le cimetière en Pologne, c'est quand même... Bon, quand on est à Cracovie, il y a quand même aussi un rapport à la tristesse, à la mort, et à tout ce qui s'est passé là-bas, parce que c'est encore très, très fort, très, une espèce de chape. Donc voilà, j'avais envie de faire un tour dans le cimetière, et ça va pas tellement plus loin, il n'y a pas de projet, d'analyse, c'est simplement, voilà, j'avais envie d'être dans un endroit comme ça.
Tu crois qu'une tomate très rouge dans ce cimetière ?
Oui. Mais ouais, c'est-à-dire, je cherche vraiment aussi un rapport avec la... Bon, là, c'était l'histoire de manger dans le cimetière. C'était quelque chose comme un peu un geste un petit peu qu'on n'a pas... Enfin, un petit peu décalé, quoi. Il n'y a rien à faire là. Et la tomate, c'était l'idéal parce que c'est très visible, ouais, c'est rouge. C'était un peu le nez de clown aussi que je mange mon propre nez.
Alors, deux mots sur l'image. C'est une image avec un gros grain. Qu'est-ce que c'est cette image ?
C'est une image Super 8 qui est ensuite numérisée. Donc, effectivement, ça grandit le grain. Surtout que là, hier, c'était une projection avec un grand écran. Les gens sont très collés à l'écran. Je trouve que l'écran est presque trop grand pour la salle. Mais bon, je ne sais pas. Je l'ai découvert comme ça. Mais l'idée, de toute façon, d'agrandir l'image Super 8, qui est normalement très petite, c'est vrai que ça c'est volontaire, ça devient une sorte de tableau, d'affiche, de quelque chose de très, très surdimensionné par rapport à l'image de départ. Et aussi quelque chose d'un peu plus grossier, du coup. Parce que ça grandit aussi les défauts, c'est pas très très net, c'est pas la définition du 16 ou du 35, c'est sûr, ni de la vidéo numérique. Donc ça devient un petit peu comme un tableau, et comme l'image est déjà une interprétation particulière de là où on est. On n'est pas dans une réalité très très palpable.
Ah, maybe moon, maybe.
The moon is close to the sun, but may still be visible.
C'était Caroline Delaporte, réalisatrice de Pologne. C'était une chronique de Marc Voiry. On va maintenant parler de Commune Présence avec Michaël Dacheux. Michaël, bonjour.
Bonjour.
Commune Présence démarre avec la lecture d'une lettre, qu'on retrouve d'ailleurs tout au long du film, une lettre lue de la belle voix douce et forte de René Vautier, cinéaste militant depuis Afrique 50, qui lui valut quelques ennuis avec la justice, en passant par les groupes Medvedkin, aux côtés de Chris Marker. René Vautier lit une lettre, sans doute à toi adressée, une lettre de Roger Daubon. Michaël, qui était Roger Daubon ?
C'est une personne que j'ai rencontrée quand j'avais 17 ans, que j'étais au lycée, avec quelques autres amis de mon âge, et qui m'a très très vite profondément marqué par sa générosité, sa présence, une façon d'être là comme ça, très 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 vivante. Et avec énormément de désir de partager des récits de lutte. C'était quelqu'un qui était né en 1920, qui avait été résistant pendant la guerre, et puis qui après s'était engagé à beaucoup d'endroits, dans les comités Vietnam, dans les réseaux Janson pendant la guerre d'Algérie. Et voilà, moi j'avais 17 ans, j'étais très jeune, et Roger m'a énormément touché, et il est décédé en 2000. Et donc le désir du film est venu d'un besoin de réévoquer ce souvenir, voilà, et de savoir un petit peu ce que je pouvais en faire pour moi-même, essayer de trouver une présence qui puisse un petit peu me satisfaire. Voilà.
C'était un peu un père spirituel pour toi ?
Bah, je suis un peu embêté avec ce genre d'expression, parce que souvent quand on dit ça... Ça devient des figures comme ça tutélaires qui peuvent être aussi un petit peu empêchantes. Et si on les respecte trop, on sait plus trop quoi en faire. Oui, c'est quelqu'un que effectivement j'admire, mais j'avais envie de sortir de l'admiration pour que son souvenir soit vivant aujourd'hui. Ouais.
On pourrait imaginer que Commune Présence est un film sur l'héritage d'une génération de militants, et que du coup il serait empreint d'une certaine nostalgie, en fait pas vraiment, ou alors à peine. Il s'agit surtout, j'imagine, de transmission d'une présence au présent.
Oui, je voulais absolument éviter l'aspect clivage entre deux générations, une qui a été canonisée comme celle de l'engagement, et une qui, de façon un petit peu journalistique, aujourd'hui présentée comme, comme individualiste ou désenchantée. Donc, même s'il y a certainement une part de vérité dans ces clichés, il ne me satisfaisait pas justement pour pouvoir trouver un élan, moi, aujourd'hui. Donc, l'idée, c'était de vraiment que cette lettre et ce souvenir de Roger puisse venir cogner, aider, et même parfois, s'il est trop lourd à porter, que ça soit complètement dit aussi dans le film, qu'il y ait une honnêteté complète par rapport à qu'est-ce qu'on pouvait fabriquer de ce souvenir, même si c'est compliqué. Et il ne s'agissait pas de dire ce souvenir va nous aider, il est là, j'ai besoin d'y aller, mais le trajet est encore difficile à faire et se fait maintenant.
Et puis après tout, les luttes sociales qu'il incarnait, elles entrent parfois dans l'histoire, mais jamais dans le patrimoine.
Oui, non, il ne fallait surtout pas faire un
musée. Ni au musée.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Dans ton film, on entend cette phrase « Quelque chose a changé, quelque chose s'est durci ». Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est durci?
Ah. Si on replace cette phrase dans le contexte du film, elle est plutôt placée à un endroit où c'est donc un jeune homme, le personnage principal, et une jeune fille qui se retrouvent après ce qu'on imagine avoir pu être une histoire d'amour, et où du temps est passé, et où ils essaient de retrouver de la parole ensemble. Et donc c'est le garçon qui dit à la jeune fille quelque chose a changé, quelque chose s'est durci. Il en parle d'une façon un peu plus sentimentale. Mais effectivement, l'idée était toujours de que le sentimental reste tout le temps chevillé au politique. Et quelque chose a changé, quelque chose s'est durci. C'est aussi peut-être sortir d'une naïveté adolescente ou d'une tendresse qui resterait trop romantique, même si je sais qu'elle est là aussi dans le film. Et d'affronter de façon plus directe un quotidien qui est dur.
Ce changement, ce durcissement, il est à la fois ressenti au plan individuel par les personnages, les protagonistes de ton film. C'est pas uniquement les changements des temps, les changements qui en ce moment rendent nos temps et notre présent de plus en plus durs. Les deux concordent.
Oui, c'était... Là aussi, enfin, le film parle beaucoup d'un manque et d'une recherche d'une action collective. Et en même temps, n'oublie pas du tout, j'ai essayé d'être honnête aussi avec le besoin d'une façon de se situer qui ne pouvait être que individuelle. Donc il y a toujours ce passage dans le film de la question de... d'une recherche, disons, pour dire vite, existentielle, et d'une recherche qui se fait à plusieurs en essayant qu'il y ait tout le temps des va-et-vient entre les deux, quoi.
C'est deux choses que tu opposes pas du tout dans ton film, ça, la conscience collective, une certaine conscience de classe, on pourrait dire, et puis en même temps, le ressenti individuel de la personne.
Ben oui, parce
que sinon... Il n'y a pas de clivage entre les deux.
Parce que sinon, c'est pas en disant « vive le collectif, vive la lutte » que je pense qu'on arrive à faire quelque chose. Il faut que le désir de se battre ensemble, il traverse les corps. Et on ne peut pas dire, tiens, je vais à une réunion entre 5 et 7, entraînant les pieds, et puis après disant, oh mon Dieu, qu'est-ce que je préfère me reposer dans mon canapé. Ça ne marche pas comme ça, parce que ça devient que du volontarisme ou un vœu pieux qui ne peut pas être efficace. Donc oui, c'est vraiment l'idée que le collectif, il est tout le temps en nous, qu'on le veuille ou non, quoi. Donc...
Dans ce durcissement, dans ces changements des temps ressentis aussi individuellement par les protagonistes de ton film, on ressent aussi une certaine usure. Il y a notamment un moment très, très beau avec une femme, médecin, qui raconte sa pratique professionnelle et notamment elle travaille la nuit et elle raconte à quel point c'est usant d'attendre le bout de la nuit. Mais en même temps, on sent bien que dans cette phrase, il y a aussi un peu une métaphore. C'est pas uniquement le bout de la nuit, l'attente du jour, c'est aussi le bout de la nuit... le bout de la nuit qu'on vit, l'attente d'un jour meilleur, d'un petit matin, du grand soir.
Tout le film se passe sur une longue nuit, comme ça on entre dans la nuit pour en sortir à la fin du film. Mais il ne s'agit pas d'y trouver un lendemain qui chante, il s'agit d'y trouver un lendemain où on puisse activer quelque chose, quoi.
Le présent, il n'est commun que si on peut envisager que le futur le soit aussi. Vers la fin de ton film, on entend cette question « Mais toi, où tu vas ?» Et à ce moment-là, il y a quelques rires, un peu grinçants d'ailleurs, et on entend « C'est une mauvaise question ». En fait, je crois que c'est une bonne question, mais c'est une question qui met le doigt là où ça fait mal. « Mais où tu vas ?»
Oui, oui, c'est une question qu'on a peut-être tous à se poser. Enfin, effectivement, j'ai essayé que le film raconte un trajet, même si c'est peut-être qu'un léger pas de côté, ou qu'en tout cas, il y ait, que dans la perte, dans la façon que le personnage a de se perdre, il puisse se trouver un petit peu. Donc, quand le personnage principal entend ces mots, il les refuse parce qu'il ne peut pas en parler, il peut juste le vivre. Ouais.
Est-ce que c'est un film que tu as projet de voir diffuser bientôt ?
Ah, je suis très heureux qu'il soit montré ici. Il y a eu deux projections et il y a une autre projection ce soir. Et pour le reste, non, je l'espère bien sûr, mais j'ai aucune idée.
Pour l'instant, c'est pas encore pas encore fait. Mais en tout cas, comme une présence sera projetée ce soir à 20h avec The Den ici à la Criée, et je ne saurais trop vous recommander de venir le voir. Merci Michael, et puis reste avec nous hein, si tu veux participer à la suite de ce plateau. On va tout à l'heure discuter des films du groupe Zanzibar que tu connais.
Oui, j'avais vu une rétrospective à Pantin il y a 2 ans, je crois, et différemment, le comme une présence est aussi traversée de ces questions, enfin de personnages de Philippe Guérel ou de Pierre Clémenti nourrissent mon imaginaire.
On va en parler dans quelques instants, mais tout de suite on va écouter une seconde chronique, une chronique réalisée par Anouk Batar, qui s'est entretenue avec Johanna Hadji Thomas et Khalil Jorej, réalisateur libanais de Riam 2007.
C'est un film qui s'est fait en 2 parties. Donc, on a tourné une première partie en l'été 99 et la seconde partie en 2007. Donc, il y a 8 années entre un film et l'autre. Pour la première partie du film, en fait, on était en train de travailler autour d'un camp de détention qui était situé au sud Liban. À l'époque, le sud Liban était encore occupé par Israël et géré par l'armée du Liban Sud, qui était une armée supplétive d'Israël, formée de Libanais. Et c'était un camp dont on n'avait aucune image, on n'avait pas de représentation, et cette absence d'image nous intéressait au niveau narratif. Et aussi, nous avons rencontré des détenus qui venaient d'être libérés de ce camp et qui avaient fabriqué en clandestinité énormément d'objets artistiques, des petits cœurs ou des petits chapelets avec des noyaux d'olives.
En fait, c'est véritablement une question sur la détention et la création dans un milieu impossible qui est celui de la détention. Comment des personnes qui étaient restées dans des espaces très exigus et sans rien ont réussi à résister, ou même plus que ça, à progresser, à créer. Donc, à cette époque-là, comme le camp était latent, c'est-à-dire qu'il était là, mais on ne pouvait pas le voir, on avait procédé par ce dispositif où on captait une parole. En 2000, l'armée du Liban Sud est défaite et Israël se retire. Le camp est démantelé et transformé en musée. Lors de la nouvelle guerre de juillet 2006, le camp subit 14 raids et il est entièrement détruit par l'armée israélienne. Et à ce moment-là, on a retrouvé les 6 personnes qu'on avait rencontrées pour leur poser à nouveau des questions sur comment ils avaient vécu la libération, la transformation en musée et puis la destruction. Et ce sont des questions qui sont pour nous essentielles, parce que ça revient à l'écriture de l'histoire, comment on écrit une histoire, parce que la plupart étaient communistes et les vainqueurs n'étaient pas les communistes, donc ils ont été laissés à côté de l'histoire. L'histoire ne les a pas pris en compte. Et aujourd'hui, comment fait-on pour garder trace de ça ?
Oui, parce que ce qu'il raconte, c'est qu'une fois démantelé et transformé en musée, le camp, il est contrôlé par le Hezbollah. Les guides sont des gens du Hezbollah.
Nous, on essaye de ne pas trop rentrer dans ces détails-là, parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément dans ce film. Il n'y a pas d'aspect militant. Il n'est pas question ici de prouver l'occupation israélienne ou ce que chacun a fait pour entrer dans ce camp. Le but n'est pas de dire voilà ce que le Hezbollah a fait, voilà ce que les communistes ont subi. parce que nous pensons que voilà, c'est les vainqueurs seulement qui écrivent l'histoire. C'est plus s'interroger sur les mécanismes de l'écriture de l'histoire en général. Et on voit bien comment justement les anciens détenus, donc en 99 quand nous les filmons, ce sont des gens qui ont résisté, qu'ils ont dans une phase un peu héroïque de leur vie. Et même s'il y a beaucoup de souffrance dans ce qu'ils racontent, il y a comme ça un espoir. Alors que dans la deuxième partie, ce qui nous a beaucoup bouleversé, c'était de trouver des gens un peu défaits et qui l'histoire change et elle ne prend pas en considération ceux qui l'ont faite forcément. Ce qui nous intéresse, c'est la transmission, la trace, la mémoire, justement, quand le camp disparaît, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il faut reconstruire un camp de détention? Mais qu'est-ce que ça veut dire, reconstruire un camp de détention? Est-ce que ça a une certaine logique? Est-ce qu'on peut reconstruire des murs qui ont justement, comme le dit un des détenus, entendu les murmures et les souffrances. Et en même temps, si on ne construit pas, alors on laisse une possibilité de table rase, et comme d'autres camps, ça deviendra des restaurants ou des lieux de...
Est-ce que le film, en tant que tel, n'est pas un objet qui permet justement de garder des traces de ce camp aujourd'hui détruit et de cette page d'histoire ?
Je crois que le film constitue un document, d'ailleurs les anciens détenus le considèrent comme tel et eux-mêmes le font circuler. Mais ce n'est qu'un document, il ne constitue pas une histoire. C'est-à-dire qu'après il y a l'articulation de plein de documents, de plein d'archives, qui ensemble concourront à constituer une histoire. Notre problème c'est justement qu'on ne s'entend pas encore sur une histoire. Quelle faction va écrire l'histoire ? C'est justement toute la question qu'on a essayé de poser. Ça s'appelle du révisionnisme, des occultations, des monopoles. Il faut refaire sortir à chaque fois d'où on parle, c'est-à-dire quel est le pouvoir qui émet cette histoire.
Vous écoutiez Johanna Hadjitoma et Khalil Jorej, réalisateurs de Riam 2007, au micro d'Anouk Batar. Retour en direct de la Criée sur ce plateau, en direct du FID. Zanzibar, un écran parallèle dans la programmation de ce Festival international du documentaire. Zanzibar, un catalogue de films réalisés entre 1968 et 73 par un groupe de cinéastes et d'artistes, on pourrait dire post-nouvelle vague, parmi lesquels on peut citer Serge Barre, Jackie Reynal, Philippe Garrel, qui a plusieurs films projetés d'ailleurs dans le cadre de ce Festival international du documentaire, Sylvie Boissonnas, qui a été la mécène de ce groupe, Pierre Clémenti, célèbre acteur, qui a aussi réalisé des films, on en a vu un ce matin, et bien sûr la comédienne Zouzou et le réalisateur Patrick Deval, qui sont avec nous sur ce plateau, accompagné par Sally Chafto, historienne du cinéma et programmatrice de cet écran Zanzibar au FID, et par ailleurs auteur d'un livre qui leur est consacré, intitulé « Les films Zanzibar et les dandys de mai 68 ». Sally Chafto, bonjour.
Bonjour.
Peut-être une question sur le titre de ce livre, mm-hmm. « Les films Zanzibar et les dandys de mai 68 ». Pourquoi dandys ?
Eh bien, parce que quand j'ai vu ces films il y a 10 ans à peu près, j'étais tout de suite frappée par la beauté de tous ces jeunes gens dans ce cinéma, et aussi j'avais l'impression qu'ils étaient tous très attachés à leur apparence physique, et tout de suite je me suis aperçue qu'il y avait déjà dans le groupe les premiers top models, dont Zouzou et aussi Caroline de Bendand, qui était en mai 68, la Marianne de mai 68, une Anglaise qui vit en France depuis au milieu des années 60. Donc il y avait cet attachement à leur apparence, et ça se voit tout de suite dans le film. C'est un cinéma fait quasiment sans scénario. Voilà, mais en 35 mm, des films dits sauvages, parce que faits sans l'autorisation du CNC de l'époque. mais quand même fait avec un certain moyen, avec des vrais techniciens professionnels, etc., etc. Donc, et comme dans une affiche connue de mai 68, il y avait un slogan, la beauté est dans la rue. Et justement, dans le livre, il y a une très, très belle photo de Chris Marker, de Jackie Greenhalgh pendant la nuit, dans les événements, très maquillée, très belle. C'est-à-dire, même avec les pavés dans les mains, ils étaient tous très beaux. Voilà. On peut appeler ça le dandisme ou aussi le lyrisme, mais voilà. C'est un peu, à peu près ça.
Patrick Deval, d'ailleurs, justement, ce matin, dans la présentation d'Acéphale, votre film, vous insistiez sur ce terme de lyrisme, peut-être pour qualifier votre film, mais au-delà, l'ensemble des films de Zanzibar.
Oui, d'ailleurs, le dandisme, je le prendrais aussi, j'ajouterais une dimension supplémentaire, peut-être. C'est qu'à l'époque, toute la jeunesse française avait la tête carrée. C'était les assemblées générales étaient la drogue la plus répandue. Tout le monde était en train de tchatcher sur le monde futur. Les idéologues avaient vraiment pignon sur rue. Et bon, c'était bien à la française une révolution à la fois de parleurs, à la Danton, etc. Ceux qui avaient vraiment le logo le plus puissant. Et puis aussi donc d'idées, d'idéologues. On était en train d'enterrer les derniers totalitarismes et tout. Et alors nous, ce groupe Zanzibar, on était à côté, au-dessus ou en dessous de ça. On était plutôt avec des affinités avec l'underground, déjà anglo-saxon, avec les musiques aussi noires, entre autres, jazz pour moi beaucoup, blues, etc. Puis le rock est venu. Et on était vraiment... on se sentait différent. Notre différence était notre nécessité. On n'était pas avec les trotskistes ou les maoïstes ou... tous les plutocrates qui se voulaient distinguer. Et en même temps, on épousait la cause de la libération de la révolution, de l'ouverture de la société, etc. Donc j'étais un petit pavé sur les flics, ça ne nous déplaisait pas du tout, bien sûr. On était anards, nés, mais pas structurés, quoi. Donc c'était aussi cette distance que Sally a bien relevé en employant le mot dandy.
Voilà. Sally, si ce groupe s'intitule Zanzibar, c'est bien sûr une ville, Zanzibar, qui est située, je crois, en Tanzanie.
Oui.
La Tanzanie qui était à cette époque-là un pays révolutionnaire, plus ou moins maoïste.
Oui.
Et c'était une forme de consensus quand même à l'égard d'une politique de gauche ou d'extrême gauche. Même si, comme Patrick Deval le rappelait à l'instant, il ne s'agissait pas du tout de cinéma militant au sens strict du terme. Il y avait quand même quelque chose qui était un consensus politique à gauche.
Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, il s'appelle Zanzibar, mais après le coup, c'est-à-dire quand Patrick a fait son film en juillet 68, où Garel a fait la concentration en juillet 68, ce cinéma s'appelait pas encore Zanzibar. C'est-à-dire, après Serge Barre, il a pris Zanzibar un peu comme une homonyme pour son propre nom. Zanzibar, Serge Barre, et ensuite il avait un projet pour un quatrième film avec Sylvina. D'abord, il a fait Détruisez-vous, qui est quand même quasiment un hommage à La Chinoise de Godard. Et ensuite, il a fait deux autres films avec Henri Alecant derrière la caméra, Ici Maintenant, et aussi Fun and Games for Everyone. Ensuite, il était allé en Afrique avec toute une équipe de 15 personnes, même plus, avec beaucoup d'argent, et il a laissé tomber son équipe après 6 mois pour devenir musulman. Et voilà. Donc, mais son idée, c'était aller à Zanzibar avec son équipe en filmant un projet, mais finalement, le projet ne se faisait pas. Mais Caroline de Bendern avec Barney Whelan ont enregistré les sons en Afrique, et ils sont revenus pour faire l'album Moshi, qui était vraiment un tournant dans le jazz. Tout à fait. Donc Moshi, un album vraiment mythique.
Effectivement, le groupe Zanzibar, c'est une galaxie qui dépasse un peu largement le domaine du cinéma, qui incluait aussi la mode, dans une certaine mesure, et puis la musique.
Oui.
Sally, tu viens de citer à l'instant Barney Whelan, mais on pourrait aussi parler de Jean-Pierre Calfon, qui était un des membres de ce groupe. Et puis, peut-être, Zouzou, sur justement la présence de la mode, tu étais mannequin aussi,
oui,
à cette époque,
oui.
Comédienne, mais aussi mannequin. Et puis sur
d'abord,
la musique.
D'abord, mannequin, d'ailleurs. Parce que comédienne, comédienne, j'étais pas comédienne. Je veux dire, il s'est trouvé que Garrel a décidé que j'étais comédienne. Et voilà, quoi, ça s'est fait comme ça. Mais j'étais mannequin, je gagnais bien ma vie comme mannequin. Et j'avais déjà aussi enregistré des disques. J'étais plus branchée sur la musique que sur le cinéma à l'époque. Et après, j'étais partie vivre à Londres. Donc j'avais un peu laissé tomber tout ça. Mais voilà, quoi. Quand j'ai fait les films avec Garrel, bon,
Je disais à l'instant, j'ai croisé Garrel, ça s'est fait comme ça. Mais ah comme oui. Ça, c'est-à-dire comment ?
Comme ça. C'est-à-dire que Garrel avait entendu, d'abord, bon, je sais pas, je suppose qu'il me trouvait à son goût, physiquement. C'est ce que j'ai cru comprendre après. Et donc, il avait en tête de tourner avec moi. À l'époque, lui, il était un gamin, il avait 18 ans. Et il faisait des émissions pour la télévision. Et donc, les premiers tournages que j'ai faits, c'était avec Garrel pour des émissions de variété. Et c'était les premiers clips, vraiment. On a fait des petites mises en scène sur des chansons de mes 45 tours de l'époque. Et c'était projeté. Je me souviens que ça avait fait un horrible scandale parce que... On avait tourné dans une église désaffectée et on voyait ma petite culotte parce que j'avais une mini-jupe. Et à un moment, on a vu ma petite culotte, ça a été un drame à la télévision française. Ça fait un véritable... Oh, mon Dieu, on a vu sa petite culotte, attends. Maintenant, on voit tout, mais bon, là, vraiment, le drame.
Comment ça se passait, les tournages avec Philippe Garrel ? Peut-être celui de Marie pour mémoire, par exemple, qui est un des très beaux films.
Ah bah c'est, Garrel, ça se passait toujours très bien. Je veux dire, il me prévenait la veille. Je veux dire, ça faisait 2 ans, il faut dire, qu'on en parlait de Marie pour mémoire. Mais le jour où on a commencé à tourner, la veille, il m'a dit « on tourne demain ». Ah, j'ai dit « ah bon, d'accord ». Et comment je vais être ? Il m'a dit, t'inquiète pas, j'ai ton costume. Ah, j'ai dit, bon, ok. Et il est venu me chercher à 4h du matin, parce qu'il avait des folies, il dormait pas de la nuit, donc il est venu me chercher à des heures infernales. Donc j'étais à moitié abruti. Il m'a dit, voilà ton costume, il m'a donné une chemise de nuit blanche, que j'ai eu quasiment du début à la fin. Et voilà, on a commencé à tourner, je savais absolument pas de quoi il était question. Mais, je veux dire, il me donnait quelques phrases que je devais caser par-ci, par-là, et puis improviser autour, quoi. Et puis, finalement, à la fin, ça tient debout, quoi. C'est ça qui est formidable. Et c'était très beau, quoi. Je veux dire, il avait un grand sens de l'esthétisme. C'était...
On va justement parler tout à l'heure de l'esthétique des films Zanzibar, mais à l'instant, on parlait de musique, de la musique de l'époque, mais une musique que tu continues à pratiquer. Que tu recommences à pratiquer. Je voudrais que tu nous dises quelques mots du son que tu vas nous faire entendre.
Alors, c'est un single qui vient de sortir sur iTunes aux États-Unis, quoi, parce que iTunes, c'est un serveur américain et qui est en donné cadeau pour les Français sur YouTube. Et ça s'appelle Chercher l'erreur. Et c'est un duo que j'ai fait avec Donovan, qu'on n'a pas vu non plus en France depuis assez longtemps, mais qui est un vieil ami à moi que j'ai retrouvé tout à fait par hasard après un concert où j'étais allé le voir. Et puis ça s'est fait, mais le plus simplement du monde, je lui ai dit... J'aimerais bien faire un duo avec toi. Il m'a dit, envoie-moi ta démo. Je lui ai envoyé ma démo. Il a écouté, il m'a dit, je trouve ça formidable. Et il m'a dit, je le produis. Pof, c'était parti.
Sans insister lourdement là-dessus, tu as été un moment très très proche du monde du rock, notamment des Rolling
Stones. Ah bah oui, j'ai vécu avec ce charmant Brian Jones, que j'aime beaucoup, je veux dire, que j'ai beaucoup aimé, mais qui était pas très vivable, quoi. Oui.
En attendant...
Ça fatiguait beaucoup, quoi.
En attendant, on écoute Chercher l'erreur.
Je crois aux astres et aux ovnis, à la musique et aux amis. Parfois je rêve d'un monde sans menteur, chercher l'erreur.
Hoping that I had what it takes, I've had my share of bad mistakes. Now all I have, I will give it to her. Cherchez l'heureux.
La 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 la, cherchez l'erreur. La 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 la, cherchez l'erreur. Pas besoin de me justifier. Je n'ai jamais su calculer.
The future's bright and the past is a blur.
Cherchez l'heureux. La 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 la, cherchez l'erreur. La 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 la, cherchez l'erreur.
I look ahead without regret. What I will see is what I'll get.
Je vis ma vie sans reproche et sans peur. Cherchez l'erreur. La 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 la, cherchez l'erreur. La 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 la, cherchez l'erreur. Chercher
l'erreur, Zouzou et Donovan. Retour sur ce plateau en direct du Festival international du documentaire. Vous écoutez Radio Grenouille. On va un peu s'intéresser à l'esthétique des films Zanzibar. Sally, est-ce qu'il existe, à ton avis, des points communs entre tous ces films ?
Absolument. D'abord, comme j'ai déjà dit, presque, enfin, pas de scénario, des plans très très longs, des longues séquences, et dans quasiment tous les films Zanzibar, des travelling, voire des panoramiques. Voilà. Et presque pas tous les films, mais la plupart des films Zanzibar, c'est-à-dire une douzaine de films en noir et blanc. Voilà, le film de Sylvina, qu'on ne peut pas le voir, c'était en couleur, mais c'était une couleur très réduite. Et aussi, la concentration, aussi, c'était une couleur, mais également une couleur très réduite.
Le choix du noir et blanc, c'était un choix esthétique, c'était pas uniquement parce que la pellicule couleur coûtait plus cher.
Non, à mon avis, c'était ça, c'était par l'esthétisme. Enfin, aux États-Unis, en 68, la couleur était déjà dominante, mais ici, en France, c'était pas encore aussi dominante. Enfin, bien évidemment, Godard, il a déjà basculé dans la couleur, je crois, avec d'autres choses que je sais d'elle en 65. Mais il y avait les labos et les techniciens étaient toujours très, très attachés au noir et blanc, et les chef-op, bien évidemment aussi. Et Michel Fournier, il faut citer Michel Fournier, qui a fait la plupart des films Zanzibar en tant que chef-op. Il avait énormément de talent. Et le grand Henri Eloquent, qui a fait deux films avec Serge Barre, Fun and Games for Everyone, et Ici maintenant. Donc voilà, c'était
Henri Eloquent, Michel Fournier, Guy Gilles, effectivement, voilà. Des chefs-op de très très grande qualité. Ouais, la maîtrise de la caméra est assez extraordinaire. Et Patrick Deval.
Oui, alors pour le noir et blanc, je rajouterai aussi la dimension. Parce qu'il y avait quand même pas mal de films en couleur déjà à l'époque, et surtout les westerns, évidemment, les comédies musicales, venant d'Amérique, etc., même en Italie. Et puis, même Pasolini faisait de la couleur aussi, Fellini avait commencé. Mais j'ai l'impression que nous, avec le groupe Zanzibar, on avait aussi un penchant pour le primitif, ou primitivisme, ou une recherche. On a une fascination pour le cinéma muet, pour cette espèce de force de la lumière qui épinglait les acteurs du cinéma muet comme des papillons avec une épingle, comme ça, qui avait l'air un peu éberlué par la lumière. Et enfin, moi, en tout cas, ça me plaisait bien, cette esthétique. Parce que là, j'avais fait un court-métrage avant en couleur, avec couleur vraiment rayonnante, méditerranéenne. Et puis là, j'ai opté pour le noir et blanc parce que je pensais que ça me plaisait bien, ce contraste, cette mystique de la lumière et de l'ombre.
Un primitivisme et peut-être aussi une certaine forme de minimalisme. Alain Dister, journaliste et photographe qui vient de disparaître il y a quelques jours à peine, parlait de dépossession. En tout cas, un élément caractéristique, c'est l'éradication de l'auteur. Il apparaît à peine au générique et on a l'impression qu'il y a vraiment une volonté d'en faire un minimum, y compris d'évacuer presque le cinéaste de son propre film.
Oui, il y avait un peu cette... Déjà, bon, on était des lecteurs des situationnistes, de Guy Debord et de la Société du spectacle. On n'avait pas envie de devenir des grands tycoons d'Hollywood, des tyrans, en fait, parce qu'il y a un côté quand même tyrannique, en tout cas, dans le réalisateur. Il manipule les êtres, d'abord des acteurs, et puis une équipe, et puis ensuite, éventuellement, des spectateurs. Donc, avec... l'idéologie 68 art d'ouverture un petit peu des fenêtres, c'est vrai que l'auteur est devenu une notion plus impersonnelle, plus commune, plus diffuse. Pareil pour les acteurs, donc il y avait, voilà, c'est vrai, un détachement, une simplification et bon, tout le contraire du people bling bling d'aujourd'hui, quoi. Vraiment, on est carrément à 1000 années lumière. C'est marrant, d'ailleurs, bon, c'est des cycles.
C'était hein, voter dur, voter mou, mais voter dans le trou.
Voilà.
Est-ce que, Patrick Deval, est-ce qu'il y avait une influence quand même, même un peu distante de Godard, de la nouvelle vague sur les films Zanzibar?
Herr Godard, oui, Jean-Luc... Oui, Jean-Luc, c'était le grand frère, évidemment. C'était un des maîtres qui était juste un peu notre aîné, puisque finalement, il a qu'une dizaine d'années de plus que nous. Quand il a commencé, à bout de souffle, est sorti en 59, moi j'avais donc 15 ans. Et, oui, il nous a bien ouvert aussi les portes, parce que par son espèce de sa grande liberté, de ton, son intelligence. Enfin, il y avait plein de choses qui nous ont flashés. Mais après, bon, comme toujours, on secoue un peu l'image du père ou du grand frère et on est passé à autre chose. Garrel avait toute une histoire avec Godard de fils-père importante. Mais moi je préférais plutôt Mizoguchi, quoi.
Comment est-ce que Godard voyait ton travail et celui de Philippe Garrel?
Alors là, ignoramus. Pour le mien, en tout cas, je ne sais pas. Je sais qu'il a dû apprécier, Sally doit savoir mieux que moi, les débuts de Garrel, mais après, je crois qu'il est très peu loquace sur les autres réalisateurs, Godard. Hein.
Voilà. Sally Chaffetot, tu es l'auteur d'une thèse, enfin en tout cas d'un travail assez considérable sur Jean-Luc Godard, peut-être sur ce rapport entre Zanzibar et Godard.
Plus généralement, je dirais que les réalisateurs de la Nouvelle Vague étaient complètement fascinés par le travail des cinéastes zanzibars. Romer, par exemple, il a complètement flashé sur la concentration de Garrel, et c'est grâce à ce film qu'il a demandé à Zuzu de faire L'amour l'après-midi avec lui. Truffaut, je dirais pareil, je pense que Truffaut avait la trouille vis-à-vis de Garrel dans le film qu'il a fait avec Bernadette Lafont, Une belle fille comme moi. Il fait même référence à Garrel dans le film. Il y a une gosse de 5 ans qui filme Bernadette en train de tuer un homme. Et le petit s'appelle, enfin, Garrel Farrel, c'est un jeu de mots à propos de Philippe Garrel. Godard, enfin bref, je suis sûre et certaine que Godard, à cette époque, il a vu à la Cinémathèque les films Zanzibar, mais n'oublions pas que déjà à cette époque, il était dans son militantisme, d'ailleurs avec Jean-Pierre Gorin, qui est là dans le festival, qui présente les films sur les États-Unis. Donc, voilà.
Pour
en terminer sur cette esthétique des films Zanzibar, Patrick Darrel, il y a un mot que tu aimes à employer à propos de tes films, mais peut-être plus généralement, c'est celui de transparence.
Oui, c'est vrai, peut-être, sans doute. Ça ne mange pas de pain. Et puis c'est assez fantomatique. Non, mais c'est bon, transparence, pourquoi pas. Glasnost, comme diraient les Russes. Oui, je ne sais pas, ça a dû m'échapper. Mais en tout cas, disons que... c'est mieux qu'opaque. Et puis, c'est vrai que, de toute façon, le cinéma, c'est un ray de lumière projeté sur un écran qui... Bon, il y a un jeu avec la transparence. Sinon, que dire de beau
Salut Chafto.
En fait, Patrick, il a toujours des très bons mots, mais il oublie ce qu'il a dit tout à l'heure avant son séance. Il a dit qu'il a quitté la France fin 68, pas pour prendre, mais pour apprendre. C'est-à-dire, c'était d'aller sortir de la France, pas un touriste, mais vraiment apprendre en Afrique, aux États-Unis et aussi au Japon, parce que lui, il était un grand voyageur. Et c'était ça, la fin de ce groupe Zanzibar. Tout le monde est parti, voilà, par une langue. Et lui, en particulier, pendant 10 ans. Voilà.
On se retrouve dans quelques instants pour continuer à parler des films du groupe Zanzibar, mais tout de suite, on va parler de son. On va retrouver la chronique technique de Juliette, qui chaque jour, dans ce Mac du Feed, nous détaille un des aspects de la création cinématographique. Aujourd'hui, c'est donc le son, et elle a rencontré Alain Mathieu, ingénieur du son.
C'est parce qu'elle a fait la script hier soir.
Les comédiens, la perche, silence plateau.
La chronique technique du docu.
Bonjour.
Bonjour, on m'appelle Alain Mathieu ou Pierre-Alain Mathieu. Je suis ingé son, preneur de son. Je prends le son, je le restitue. Je travaille beaucoup en audiovisuel, télé, documentaire, un peu de fiction, beaucoup de magazines d'actu. Et une de mes parties préférées, c'est le documentaire.
Pourquoi c'est votre partie préférée, le documentaire ?
Ben, le documentaire, c'est une manière de rentrer dans les situations des gens. En général, on a peu de temps pour tourner, donc il faut aller vite, au plus loin qu'il est possible d'aller. Et ce qui est très étonnant dans le documentaire, c'est qu'en fait, avec la complicité des gens qui ont donné leur accord pour être du documentaire, on arrive à aller très très loin avec des temps records. C'est-à-dire qu'on se projette dans les vies, dans les situations, on va très 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 loin, très profond avec les gens, et il n'y a vraiment que dans le documentaire où on arrive à découvrir des personnages, aller aussi loin avec des gens.
Quelles sont les différences entre le son en fiction et le son en documentaire ?
Ben, les différences fondamentales, c'est qu'en documentaire, il y a un mot qui dit en documentaire, on filme la répétition, et comme elle est bonne, il n'y a pas de première prise. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on court après une situation qui a lieu en temps réel. Et aussi bien, et pour le son, il s'agit de capter tout le son, tous les dialogues, tout ce qui se passe, aussi bien les ambiances dans le temps réel, et aussi bien pour la caméra, la complexité vient du fait qu'il faut monter des séquences et avoir l'ensemble des choses, alors qu'on peut pas, difficilement, il y a des moments où on peut pas intervenir sur ce qui se passe. Donc on doit être bon en permanence, arriver à restituer en permanence ce qui se passe, sans savoir réellement ce qui sera monté au final. C'est-à-dire, ce qui est difficile, c'est d'envisager toutes les possibilités, d'arriver à anticiper tous les soucis qu'on aura, parce que le moment où la scène est partie, enfin on dit scène, mais c'est pas des scènes au sens fictionnel, c'est des scènes au sens des scènes qui ont lieu en temps réel, quoi. Et donc d'arriver à restituer au mieux. Bon, les problèmes, c'est multiple, hein. Il peut y avoir énormément de soucis. Il faut anticiper les bruits de frottement, les bruits de vent, une route à proximité qui empêchera de faire une bonne prise de son, parce qu'il y a un camion qui passe au moment. Il y a une espèce de d'instantanéité. C'est vraiment la différence entre le documentaire et la fiction, c'est qu'en en documentaire, on reprend pas. Il faut avoir tout au moment où ça se passe. Les réalisateurs de qualité ont un souci énorme du son, parce qu'en effet, par le son, c'est-à-dire on peut faire de la radio, quoi. Mais il y a eu du film muet, alors c'est pareil. Moi, j'avoue que j'irais pas aussi loin, que il y a des scènes qui sont vécues. On peut enlever l'image, quoi. Il y a aucun problème. On peut enlever l'image et laisser juste le sens et le sens qui existe, c'est-à-dire les paroles, mais les paroles dans l'espace. C'est-à-dire là, par exemple, on est dans un espace, alors là, tu l'entends. C'est-à-dire, par exemple, si je fais ça, dans la prise de son, il y a immédiatement énormément d'informations qui ne sont pas analysées par le... Enfin, qui sont analysées par le cerveau, mais pas par l'intelligence. C'est-à-dire que il faut avoir une oreille assez habituée pour arriver à entendre, à analyser des choses que le cerveau analyse aussi sec. C'est-à-dire qu'il te dit dans quel type d'espace tu es. Tu fais une prise de son dans un espace énorme et qu'à l'image, t'as un espace tout étriqué. Sans pouvoir expliquer pourquoi il y a quelque chose qui cloche, les gens qui vont regarder ça vont entendre qu'il y a quelque chose qui cloche. Et ça c'est une des particularités du son qui restitue énormément de choses, mais pas de manière consciente.
C'était la chronique technique de Juliette. Retour à Zanzibar. On a évoqué tout à l'heure Philippe Garrel, qui était un des réalisateurs phares de ce groupe Zanzibar. J'aimerais peut-être maintenant, si vous voulez bien, qu'on dise quelques mots de Pierre Clémenti, un comédien qui a tourné avec les plus grands réalisateurs, Visconti, Pasolini, Buñuel. Quelques mots, Zouzou, à propos de Clémenti.
Oui, Pierre, c'était d'abord, il est dans le film mon film, qui s'appelle Zouzou tout simplement, qui se va sortir aussi en même temps que l'album au mois de septembre-octobre. Et Pierre, c'était son dernier tournage. Il était d'une beauté incroyable, d'une générosité. C'était vraiment quelqu'un, pour moi, de merveilleux. Et puis, quand je suis allée à l'enterrement, je me souviens que Calfon a dit une chose que je trouvais formidable. Il a dit, Pierrot, c'est pas si mal que tu sois plus là, parce que je crois pas que les années qui viennent là t'aurais vraiment plus quoi. C'est pas ton truc la mondialisation, les histoires de pognon, de bourse. C'est sûr que c'était pas son truc à Pierre. Pierre c'était exactement le contraire. C'était quelqu'un de totalement disponible, généreux. Tourner avec lui c'était un bonheur pour une actrice. C'était un vrai bonheur parce que il était d'une tendresse, d'une gentillesse. Enfin, bon, vraiment je pourrais parler de Pierre pendant des heures. C'est quelqu'un que j'aime profondément et que je trouve magnifique. Et je trouve, on le voyait tout à l'heure, je disais, il était même trop beau. Trop beau. Les gens trop beaux, finalement, c'est presque un handicap dans le cinéma d'aujourd'hui. Il aurait mieux valu avoir des têtes un peu plus passe-partout, quoi. On était plus difficile à placer, quoi.
Pierre Clémenti, c'était aussi un ange qui a brûlé ses ailes dans de nombreux excès. Et c'est vrai que des excès autour du groupe Zanzibar, il y en avait beaucoup.
Il y en avait un paquet, oui. On a tous été des excessifs, évidemment. Mais bon, il n'y a pas que Pierre. On peut parler de Didier Léon, qui était magnifique aussi, qui s'est suicidé. On peut parler de Frédéric Pardo qui était un peintre extrêmement talentueux comme Didier Léon d'ailleurs, qui est aussi mort il y a deux ans et demi. Il y a notre amie Tina Aumont qui était d'une beauté aussi extraordinaire qui est morte 6 mois après Frédéric. Enfin bon, je veux dire, c'est un peu une hécatombe, quoi. Un peu triste.
Comme disait ce matin Patrick quand tu présentais ton film, ça tombe comme un gravelotte.
Oui, on a presque envie de faire le coup de... C'était Mark Twain qui disait, oui, Shakespeare est mort, Coleridge est mort, et moi-même, je me sens pas très bien. C'est souvent une conférence. Ouais. Et c'est vrai que là, bon, on vient d'apprendre de Alain Dister. Bon, de toute façon, c'est normal, hein, c'est les aiguilles tournent.
Comment c'est normal?
Oui, on peut juger de la beauté de la vie que par celle de la mort, comme disait l'autre Réamond, notre idole. Et mais néanmoins, c'est vrai que nos amis ont brûlé la chandelle, comme on dit, par les deux bouts, et que c'était des anges. Clémenti, c'était vraiment l'image de l'ange, effectivement, brûlé en plein vol. Trop beau, c'est vrai qu'il y a aussi cette chose, c'est offensant pour finalement notre monde très laid, de voir des êtres aussi beaux que Tina Aumont, Pierre Clémenti, en liberté comme ça. Ouais. Et finalement, ils sont... Voilà, ils sont... Mais c'est, rester.
Une autre figure dont j'aimerais aussi qu'on parle avant de se quitter, une figure de l'ombre dans ce groupe, c'est celle de Sylvie Boissonnas. Un rôle éminent dans le fonctionnement de ce groupe, puisque c'est elle qui a porté le pognon, hein, je crois, plus ou moins, pour le dire un peu trivialement. Sally.
D'abord, elle s'appelle Sylvina Boissonnas. Et c'est sa mère qui s'appelait Sylvie Boissonnas. Sylvina, je crois, elle était la... Son parrain était couve de Murville. Et sa mère, elle était née Schlumberger. Et sa tante était chez nous, aux États-Unis, une très, très grande mécène, Dominique Duménil. Sa mère aussi, elle était une mécène au Centre Pompidou. Donc déjà, Sylvina... Enfin, je dis dans le bouquin, je crois que Sylvina... À mon avis, elle a pensé peut-être un peu à Lord Noailles quand elle a financé tous ces films. Mais vraiment, comme Patrick m'a dit un jour, Sylvina, ou comme Sylvina m'a dit elle-même, elle n'était pas productrice du cinéma, elle était financière. C'est-à-dire, elle n'avait pas des contrats avec les cinéastes ni avec les acteurs. Elle avait ouvert le robinet d'argent. Enfin, les gens comme Zuzu et Pierre Clémenti, jamais Zuzu et Clémenti ont reçu un sou, jamais payé. Mais elle a quand même fait du cinéma avec des moyens de 35 mm, ça veut dire presque Hollywood, quoi. Une femme d'une élégance totale. On rend hommage à Sylvina. Elle était invitée, mais à la dernière minute, elle n'a pas pu nous joindre. Et après avoir fait tous ces films et le catalogue Zanzibar, elle a donné à tous ses auteurs leurs droits. C'est-à-dire, elle n'a pas retenu elle-même, en tant que financière, des droits. Voilà.
On approche du terme de cette émission. Je voudrais rappeler que Détruisez-vous de Serge Barre est projeté ce soir à 20h30 aux Variétés, Film Porno et Cléopâtre à 22h15, toujours aux Variétés. Et ici et maintenant, c'est aux Variétés et c'est demain à 11h30. On dépasse un tout petit peu l'horaire, mais je vous propose qu'on écoute maintenant la chronique que nous a apportée Célia Pasco. Elle a rencontré la réalisatrice Catherine Dalphin, réalisatrice de Can You Go Quickly to the Sun.
Je reviens dans ce petit pays dont j'avais aimé la lumière, la côte, la forêt. C'est déjà loin, ce premier voyage, pour un pays aussi petit, mais qui avance aussi vite, pour essayer de rattraper le modèle de l'Europe de l'Ouest. Je n'ai pas connu l'occupation en Lettonie, mais je perçois clairement qu'un monde a disparu avec l'indépendance et qu'un autre est apparu, est encore en train d'apparaître, même si ça va très très vite.
Le projet est né d'une photo que j'ai vue dans la presse, au début des années 2000, je crois en 2001, une photo du radiotélescope qui avait retenu mon attention, en fait. Et j'avais envie d'aller voir cet objet de plus près. Et j'ai découvert non seulement le radiotélescope, qui est quand même un objet assez imposant, un peu hors d'échelle, mais aussi le lieu, c'est-à-dire l'ancien camp militaire d'Irbené, qui était construit par les soviétiques pour abriter à la fois des militaires et des scientifiques et leurs familles, qui était donc une de ces villes extrêmement secrètes qui n'apparaissait même pas sur les cartes de géographie militaire et qui donc est abandonnée depuis l'indépendance en 91. Et là, petit à petit, j'ai découvert que quelques personnes avaient fait le choix, ou qui n'est pas toujours un véritable choix d'ailleurs, de vivre. Et c'est ces personnes-là, en fait, que j'ai eu envie d'approcher en retournant filmer sur place.
Des personnes que vous appelez les invisibles ?
Ben, invisibles déjà parce qu'on les remarque pas tout de suite. Moi, j'ai mis un certain temps. C'est des personnes que voilà, qui font pas partie du décor qui est un petit peu mis en place maintenant. C'est-à-dire que le télescope a été réhabilité, invite des scientifiques du monde entier à venir travailler, et c'est aussi devenu un haut lieu touristique. Donc, des quarts entiers de touristes viennent et repartent. Et non pas du tout le temps, ni peut-être l'envie de regarder autour et de voir qu'il y a des gens, des personnes qui ont peut-être un peu, qui ont été un peu oubliés, je dirais, de, au moment de la transition.
Mais
connais-je bonjour, madame.
Je connais
madame. Madame, elle s'en s'appelle. Mais connais-je bonjour.
Frou, madame.
Mais tu m'en parles, connais-je bonjour.
Bonjour.
Aina vit dans une maison en ruine au milieu du camp. Ruta, elle, vit dans une maison en bois qui est en train un peu de s'écrouler à la lisière, en fait, du camp. Et si on les voit dans les bois, c'est plutôt parce que c'est un peu là qu'elles vont chercher leur subsistance, notamment en cueillant des baies. Oui, parce que les pensions que ces femmes peuvent recevoir de l'État ne suffisent pas. Elles sont totalement... décalé par rapport à la vie actuelle, par rapport à cette économie de marché, par rapport à l'inflation. Il y a, dans la ville la plus proche, à Ventspils, il y a d'immenses hypermarchés, comme on en trouve ici, mais qui sont vides, en fait, parce que personne, très peu de gens peuvent y aller.
Et sur la traduction, donc vous avez fait le choix de ne pas traduire, en fait, tous les échanges en russe et en letton.
Enfin, je restitue ce que moi-même j'ai perçu, la manière dont j'ai perçu les choses au moment où je les ai saisies avec la caméra. Donc, souvent la parole détourne de l'image. Voilà.
Let's try.
Can you go quickly through the sun?
Let's try.
But
isn't it the first I have to?
Can you go quickly to the sun?
En fait, bon, ça m'a amusée. C'est une sorte de clin d'œil que j'ai fait au film. Et puis à cette expérience que j'ai vécue là-bas, c'est simplement que ce lieu qui a vu passer l'histoire, qui a changé de société, n'a pas encore atteint tout à fait le bonheur.
Merci à tous les participants de ce plateau, Michael Dacheux, dont je rappelle que le film Commune Présence est projeté ce soir à 20h à La Criée, Zouzou, Sally Chafteau, je vous rappelle que son livre Zanzibar est édité chez Paris Expérimental, et Patrick Deval. Prochain Mac du Fid, c'est demain à 18h, animé par Marc Voiry, qui reçoit Fanny Zaman, Dariusz Kowalski et Philippe Warnel. Tony était à la technique, et si vous voulez ce soir venir prendre le frais, c'est à l'espace éphémère sur le quai de Rive Neuve, ce soir, Yanos, Freaky Makers, Punky Wash, Krilo et Klima. En attendant, restez à l'écoute de La Grenouille. Dans quelques instants, Radia, suivi à 21h d'un documentaire sonore, L'histoire est faite de petites histoires, de Maria Gracianos et Juliette Boutillier.
Qui est-il?
When she leaves, she's just asking to be followed. When she walks out, all she wants is to be. Oh, my boy say she's just asking for it. Now you ain't saying nothing.